Vous écoutez France Culture. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. C'est Anquetil du Perron qui, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, partit pour les Indes dans des conditions rocambolesques afin de rapporter en France des manuscrits de la religion de Zoroastre, prophète de l'ancien Iran pré-islamique. À la fois grand érudit, aventurier et caractériel, passionné par l'Orient et par ses langues, il réussit à rapporter à Paris en 1762 180 manuscrits. L'analyse des documents lui prendra 10 ans. Sa traduction de l'Avesta, attribuée à Zoroastre, parut en 1771 sous, comme l'écrit Jean Quélens, un titre long comme on les faisait alors. Je cite « Le Zend Avesta, ouvrage de Zoroastre contenant les idées théologiques, physiques et morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi et plusieurs très importants relatifs à l'ancienne histoire des Perses. » Cette traduction, fort critiquée, est devenue aujourd'hui inutilisable. Mais on doit à Anquetil du Perron les toutes premières tentatives de reconstitution de la religion de Zoroastre. Après Anquetil du Perron, il fallut attendre plus d'un siècle pour avoir la première édition critique et donc savante de l'Avesta, le livre sacré de la religion mazdéenne. Cette édition est due à Carl Friedrich Geltner, qui l'édita en 3 volumes entre 1886 et 1896. Mais restait entière la question : de quoi était fait ce livre ? Quel était le statut des textes qui composaient l'Avesta ? Il fallut attendre encore un siècle de travaux savants pour qu'une réponse, enfin, soit donnée. Jean Quélens fut l'étudiant puis le collaborateur des plus grands maîtres de sa discipline, Jacques Duchesne-Guillemin, Helmut Humbart et Karl Hoffmann. Ce dernier, professeur à l'université d'Erlangen, avait en 1989 émis l'hypothèse que le texte de l'Avesta, établi par Geltner un siècle auparavant, n'était que l'assemblage de fragments qui nous était parvenu d'un exemplaire complet, parfait, élaboré à l'époque sassanide. 5 ans après cette publication, le mercredi 6 avril 1994, Jean Quélens inaugurait sa chaire des langues et religions indo-iraniennes au Collège de France, où, avec ses collaborateurs, il renouvela entièrement l'histoire, la lecture et l'interprétation de l'Avesta. Ce texte qui vient du fond des âges est, nous le savons maintenant, grâce à lui, un récitatif liturgique rythmé par le cours du temps. Désormais professeur honoraire, il nous a accordé un entretien. Écoutez.
Je dois ma présence au Collège de France après une très longue absence des études iranologiques et indo-iraniennes, justement au fait que j'étais le seul francophone à avoir été formé à Erlangen, c'est-à-dire dans l'école de Karl Hoffmann. J'étais le seul. pas, les étudiants, généralement, on étudie à Paris, où bon, c'était toujours le système traditionnel, mais la révolution qui s'est produite dans nos études à Erlangen n'avait pas gagné la France. Et j'ai dû ma présence à Erlangen à des événements malheureux. Moi, j'allais finir aussi étudier à Paris, comme tout le monde, c'est-à-dire suivre les cours de l'indianiste Louis Renoux. Il est mort. Bon. Il y avait aussi Émile Benveniste, c'était les deux professeurs que je souhaitais fréquenter. Il tombe malade et il ne s'en remettra pas d'ailleurs en 1969. Dès lors, changement de direction. Et mon
Vous
maître liégeois m'envoie à Erlangen où justement les choses se passaient. C'est un pur hasard, c'est des événements malheureux d'une certaine façon, comme je vous le disais. Et alors, donc, j'ai été formé là-bas et j'ai travaillé dans cette perspective pendant un certain nombre d'années. Et le problème a commencé 2 ans plus tard, en 1996, lorsque j'ai préparé mon cours et où je me suis rendu compte que le système de Karl Hoffmann ne fonctionnait pas. Sur son hypothèse de la transmission de la Vesta, qui avait créé la révolution dans nos études, présentait des anomalies trop fortes. Et bon, alors à ce moment-là, l'effervescence, au lieu de se calmer, a redoublé. L'a redoublé, et je ne suis pas le seul responsable. Beaucoup de jeunes spécialistes qui travaillent dans cette perspective aujourd'hui sont en train, on a l'impression d'un château de cartes qui s'effondre sur les hypothèses traditionnelles et où chaque année quelque chose apparaît à quoi on n'avait jamais pensé et qui renouvelle littéralement le...
On a l'impression que depuis le début des études avestiques, c'est comme ça.
Il y a tout de même de longues plages temporelles où l'on travaille dans la même perspective. Je dirais que l'époque de la théorie d'Andreas, c'est tout de même 40 ans. C'est entre 1902 et 1942, ça fait à peu près exactement 40 ans. Après la réfutation de la théorie d'Andreas, il y a une période d'instabilité qui va durer, certains maintenant l'hypothèse, d'autres embrayant, mais ne sachant pas trop par quoi la représenter, jusqu'à ce que Karl Hoffmann se lance dans cette vaste enquête épigraphique sur ce qui lui a permis de renouveler nos études, sur les manuscrits avestiques, sur leur système d'écriture, etc. Ça commence en 1965, ça lui prendra beaucoup de temps, et il publiera la synthèse de ses travaux en 1989. 89, vous voyez la date de Malson inaugural, 94.
5 ans plus tard.
C'est 5 ans plus tard. Bon, à ce moment-là, nous avons l'impression que nous avons véritablement la perspective adéquate pour aborder l'étude du texte. Et c'est en faisant mon troisième cours, en réalité. Parce que le deuxième, ce que j'avais sous la main, que brutalement, autre chose m'est venue à l'esprit. Et comme je l'explique dans mon cours, j'étais psychologiquement assez mal à l'aise parce que j'avais la plus grande vénération, je l'ai toujours, pour Karl Hoffmann, et c'était l'année de sa mort. Donc ça me créait un petit problème psychologique personnel. Et puis tout de même aussi cette vaste hypothèse que nous jugions indépassable. Enfin, il fallait voir quelles vont être les réactions. Okay. Et les réactions étaient positives très progressivement. Je crois que l'histoire de la transmission de la Vesta que j'ai proposée en 1998 dans l'article, la publication de l'article, c'était 1998, a été acceptée progressivement. Et bon, je crois que les choses étaient acquises vers 2005. En réalité, la situation particulière de nos études, c'est d'être à cheval entre deux mondes. Une manière d'aborder la Vesta, c'est la comparaison massive avec le matériel védique indien. Ça, c'est une chose. Mais aussi, on peut prendre les choses un peu à rebours, c'est-à-dire dans la tradition iranienne elle-même, Et en utilisant les commentaires plus récents ou en comparant l'état linguistique de l'Avesta, qui est un dialecte dont nous ne savons pas du tout où il a été parlé, à quelle époque exactement, mais en utilisant pour tenter de définir ses caractéristiques linguistiques les dialectes iraniens plus modernes. Donc nous avons ce vieux matériel védique non iranien, indien, mais apparenté, et apparenté aussi littérairement, ce qui n'est pas toujours le cas des dialectes modernes, bien sûr. Hein, qu'est-ce que le persan moderne a encore à voir littérairement avec ce texte de 1000 ans avant notre ère, c'est autre chose. Mais où nous avons une langue qui a conservé des traits spécifiques communs avec l'avestique. Donc ça, c'est la charnière de deux mondes. Et parfois, il y a une troisième difficulté qui vient se greffer, c'est qu'en privilégiant la comparaison avec l'un et avec l'autre, on oublie l'analyse interne du texte avestique lui-même. Et depuis quelques années, je suis très sensible à cette problématique-là, et c'est surtout l'analyse interne qui me retient.
Comment présenteriez-vous l'Avesta aujourd'hui à nos auditeurs, Jean Quélens?
Oui, il faut d'abord, le livre que nous possédons, c'est une édition de la fin du XIXe siècle. Elle a été réalisée par un philologue allemand entre 1889 et 1896. C'est une œuvre extrêmement impressionnante.
C'est toujours l'édition de Geltner.
C'est toujours la vieille édition de Geltner et qui est le résultat d'une entreprise qui, pour l'époque, était véritablement déjà une entreprise internationale invraisemblable. Parce que les manuscrits sont généralement la possession des grandes familles zoroastriennes d'Inde. Dès lors, lui, philologue allemand, sédentaire, il n'est jamais bougé de Berlin où il était professeur. Et donc, il a obtenu de pouvoir consulter. Il fallait pour cela une triple collaboration. Il fallait que le gouvernement allemand accepte d'organiser le transport des manuscrits et de le garantir. Il fallait que l'administration anglaise de la colonisation indienne soit d'accord, bien sûr. Tout ça à la fin du XIXe siècle, les problèmes diplomatiques. Et puis, il fallait l'accord des familles zoroastriennes. Il l'a obtenu, n'est-ce pas? Donc, c'est une vaste collaboration internationale officielle qui a mis en jeu certainement des influences de très hautes autorités politiques. N'est-ce pas? C'est clair. Mais, alors, dans cette perspective, comme je l'explique, l'édition de Geltner, il a travaillé, il faut bien s'en rendre compte, on s'en rend bien compte aujourd'hui, c'était un homme dans la quarantaine, donc il était dans la force de l'âge scientifique aussi. C'est un philologue remarquable, très bon spécialiste du védique. Il a travaillé vite, ah oui, sinon 7 ans pour ce travail, c'est très bref.
Trois volumes.
Il a travaillé un peu trop. Il n'a pas seulement travaillé un peu trop vite, mais aussi, il était sédentaire, il ne voulait pas partir. Il est allé consulter les manuscrits de Copenhague. C'est le seul voyage qu'il ait entrepris. Et pour le reste, que pouvait-il faire? Les manuscrits de Paris. Eh bien, il avait recours à des correspondants qui allaient voir pour lui à la Bibliothèque nationale, qui copiaient. Est-ce que c'est fiable, toujours? Bon, c'était pas nécessairement... Alors, il y avait surtout, maintenant je cesse d'être anecdotique, mais l'anecdote est parfois intéressante aussi, surtout, il y avait cette idée que l'Avesta est un livre sacré, la Bible, le Coran, l'idée, n'est-ce pas? Bon. Et que, par conséquent, c'était un vaste corpus textuel qui avait existé sous les rois sassanides, grosso modo au cœur du premier millénaire de notre ère, et que ça était le reste hasardeux après un naufrage dû à la conquête musulmane, à l'immigration des communautés zoroastriennes, etc., et qui avait été reconstitué, que les débris sauvés avaient été reconstitués avec, selon certaines procédures arbitraires.
Plus ou moins bien.
Plus ou moins bien, oui. Mais ça provenait d'un vieux livre, intact, complet, sous les Sassanides. Et dès lors, Geltner se trouvait devant deux types de manuscrits. Des manuscrits qui présentaient une traduction en moyen perse, c'est-à-dire la langue de l'Empire sassanide, et des manuscrits où il n'y avait aucune traduction. Lesquels devait-il
privilégier?
Bien sûr, dans la mesure où l'idée, c'est le reste d'un vieux livre d'époque sassanide, ce sont les manuscrits exégétiques. Et il a fondé son édition sur les livres exégétiques. Or, notre nouvelle conception de l'Avesta, c'est au contraire autre chose. C'est que ce livre a peut-être existé, mais il n'est plus là. Rien, absolument rien, n'est-ce pas ? Ce que nous avons, c'est des textes qui certainement en faisaient partie s'il a existé, mais ce sont de vieilles liturgies beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anciennes, complètes, exactes, concertées. Mais quel manuscrit représente la postérité de cette liturgie ? Les manuscrits dits liturgiques, c'est-à-dire qui ne comportent pas de traduction, mais qui comportent des indications rituelles qui ont pour but d'assurer la parfaite utilisation liturgique du texte. Donc c'est l'autre catégorie de manuscrits. Et ceux qui referont désormais une nouvelle traduction de l'Avesta devront tenir compte de cela. C'est extrêmement important parce qu'on se rend compte que les manuscrits liturgiques aujourd'hui, en les étudiant bien, ils ne donnent pas toujours le même texte. Il y a des variantes qui ne sont pas des variantes textuelles au sens philologique du terme, mais qui sont des variantes liturgiques. C'est-à-dire, selon la nature du rite que l'on voulait produire, on modifiait la composition de la liturgie. On modifiait l'ordre des textes éventuellement. On intercalait des textes. Donc, une nouvelle édition doit tenir compte non seulement des variations linguistiques qui sont le travail commun de la philologie, hein, est-ce que telle forme qui est bonne ou une autre grammaticalement, bon, ça c'est la philologie, je vais dire, de type courant, mais il faut aussi produire une édition qui rend compte des variations liturgiques dont le manuscrit témoigne. Et cela, chez Geltner, ça n'apparaît absolument pas. Parce qu'il a reproduit le texte des manuscrits dits exégétiques.
Alors, est-ce que cette nouvelle édition de l'Avesta est en cours ? Est-ce qu'elle existe ?
Elle n'existe pas, mais elle est en cours.
Est-ce qu'on pourrait effectivement voir le texte ? Est-ce que vous pouvez nous le montrer ?
Oui,
le présenter ?
Le texte de Geltner.
Oui, oui.
Le premier volume est intéressant parce que c'est le texte de ce que nous appelons la liturgie longue.
Oui.
C'est le fondement modulaire, comme je l'ai exprimé dans mon cours de la liturgie. C'est-à-dire, c'est le minimum de la liturgie. Tous les autres textes, comme nous commençons à le supposer, pouvaient être intercalés à l'intérieur de cette liturgie. C'était des compléments, un jeu de Lego.
Hein.
C'est un jeu de Lego. Mais la base modulaire du jeu de Lego, c'est ceci, c'est le premier volume. Le reste, et nous commençons à suspecter quelque chose de très grave, parce que c'est nouveau, depuis 3-4 ans on en tient compte, mais c'est que tous les autres textes ont été composés pour être intercalés dans cette liturgie. Ce n'est pas d'autres textes indépendants qui en sont petit à petit.
Tout ça est très pensé, bon. C'est ce que vous voulez dire.
Oui, c'est une liturgie concertée. Nous ne savons pas toujours très bien à quel type de motivation correspond une liturgie plutôt qu'une autre. On voit bien qu'il y en a une qui est funéraire, ça on le soupçonne. On voit bien qu'il y en a une qui est une sorte de purification générale du monde, ça nous le voyons. Hein. Mais parfois nous ne le voyons pas, parce que nous ne comprenons pas bien la motivation, le fondement du texte intercalé.
Alors, on va ouvrir, oui, parce que
oui,
cette écriture est quand même très particulière.
Elle est facile, c'est son avantage.
Elle est extrêmement facile.
Mais là, je ne l'ai pas répété, parce que c'est un des acquis véritablement qui ne peuvent pas être mis en cause de l'analyse de Hoffmann. C'est une invention. Ce n'est pas un système d'écriture qui a évolué. Ça ne vient pas du fond des temps avec des modifications, non. Ce sont quelques personnes qui se sont mises à table et qui l'ont inventé. Ça paraît un peu bizarre, mais non, c'est comme ça que ça a dû se passer. Ils n'ont pas inventé naturellement à partir de rien. Bon, on sait que ça n'a pas pu se passer avant le VIe siècle de notre ère. Jusque-là, le texte n'avait pas été écrit. Il était transmis par les voies de la transmission orale. C'est pas surprenant, c'est des Indo-Iraniens. Ils travaillaient comme des Indiens, hein. Les Indiens qui sont transmis des années avec une précision remarquable tous leurs textes, les écoles brahmaniques, c'était la même chose.
Oui, bien sûr.
Mais nous ne connaissons pas leur existence avec autant de précision. Bon. Alors, de quoi disposer ? Ils ont probablement mis au point cette écriture lorsqu'il a été question d'émigrer. Lorsque certains Zoroastriens ont voulu fuir l'Iran en voie d'islamisation, Vous savez, prendre le bateau, voyager, on ne sait plus apprendre les textes par cœur avec la même facilité. Il vaut mieux avoir un support. Ou était-ce plutôt pour d'autres raisons, parce qu'on se rendait compte des avantages de l'écriture, c'est possible aussi. Mais pas avant le VIe siècle, à cause des caractéristiques de l'écriture. Sur quelle base ont-ils travaillé? Leur écriture, je vais dire professionnelle, qui était celle du moyen perse d'époque sassanide. Oui, mais le moyen perse d'époque sassanide, c'est une écriture qui comporte 16 signes. 16 signes, parce qu'on ne note pas les voyelles. Et non seulement on ne note pas les voyelles, mais on utilise un signe pour 2 ou 3 consonnes. Alors, c'est très pratique, je veux dire. Pour nous, c'est très difficile. C'est bon. Dès lors, on a voulu transformer ce système en conservant la base formelle, la forme des signes, leur apparence. On a voulu la transformer en un système. Il fallait connaître cela aussi en un système grec ou latin. Donc, où chaque lettre représente un son, voyelle ou consonne. Puis il y a les diphtongues, ça, c'est 2 voyelles. Et alors, comment faire? Alors, on se trouve devant un système d'environ 45 signes. On passe de 16 à 45. Il faut trouver les signes ailleurs. Bon, la manière la plus simple, la plus pratique de procéder, c'est de modifier certains signes en ajoutant une petite fioriture, ce que nous appelons un signe diacritique en langage spécialisé. Si vous voulez faire, disons, F, vous partez de P. Et vous ajoutez quelque chose au P, parce que c'est aussi une labiale, et un petit signe diacritique, et on sait que ce sera F. Bon. On va donc faire ce type de... on va transformer cette écriture consonantique en une écriture alphabétique à la grecque et à la latine. Alors, une écriture alphabétique, nous savons tous bien, c'est facile. Ça se lit. Que ce soit le latin, le grec ou le russe, écoutez, c'est une demi-heure d'études, d'une demi-heure d'études, donc ça on peut, c'est facile à lire, oui, mais le travail de ces gens, lui, n'était pas facile.
C'est ça. A une idée de qui étaient ces gens?
Non.
D'où ils venaient?
C'était des Perses, probablement. Quand je dis des Perses, je veux dire des Iraniens de l'Ouest. Pourquoi? Parce que il fallait probablement qu'ils soient occidentaux en Iran, connaissaient le grec. C'est ce qu'ils ont voulu imiter dans le système.
Ouais.
Et nous en avons la preuve parce qu'il y a 2 signes empruntés à l'alphabet grec. 2 sur les 45. Je ne connais naturellement pas les détails du bricolage. Mais donc, transformer l'écriture consonantique sassanide en l'alphabet alphabétique spécifique qui a servi à noter l'Avesta, c'était un travail de réflexion d'un petit comité de travail, simplement. Le but était de mettre l'Avesta par écrit. Les gens qui ont fait cela connaissaient très bien, l'écriture moyen perse sassanide, c'était leur langue et leur référence culturelle. Ils étaient eux-mêmes moyen perse sassanide, si je peux dire. Ils connaissaient le grec, parce que des Iraniens de l'Ouest étaient au contact du monde byzantin. Troisièmement, ils étaient des prêtres. Ils connaissaient le texte par cœur. Alors, le rapport pratique entre l'écriture et le texte, c'est dans leur mentalité de prêtres qui connaissaient cela par cœur qu'il faut le voir. Nous connaissons, et on écrit ce qu'on a dans la tête au moyen d'un nouveau système d'écriture.
Et à quoi a servi cette écriture en dehors de l'Avesta?
À
rien d'autre.
À rien d'autre. À rien d'autre.
Formidable.
Jamais. Jamais.
Atharato Ashachit Haja Vangeosh Davda Manango Shothanana Angeosh Mavdai Shatrimcha Aurai Aim Dregubyo.
Jean Kellens, les Gathas sont donc sans doute le plus ancien texte monothéiste connu. On peut dire que nous avons affaire à la plus ancienne religion à texte. Enfin, comment pourrait-on dire ça plus précisément? Et comment les dater?
Nous n'avons pas de date ferme. Je suis un peu sceptique sur les dates trop hautes. Je suis entièrement en désaccord avec les dates trop basses qui ont parfois été avancées.
Oui.
Mais je dirais qu'il est très sage, je pense, comme quelqu'un l'a déjà dit dans les années 70, que ça, les plus anciens textes de cet Avesta, ceux qui composent le cœur du Yasna de ce premier volume, les Gathas, ne peuvent pas avoir été composés longtemps après l'an 800, avant notre ère. Mais il n'est pas nécessaire non plus qu'ils aient été composés avant l'an 1000, avant notre ère. 800, 1000, ça me paraît une fourchette, une estimation.
Et les Védas aussi, donc.
Les Védas aussi, oui.
Donc les plus
il y a des traits
textes,
linguistiques qui paraissent alors... plus archaïques parfois que dans les Védas, mais...
C'est les plus anciennes religions à texte.
À texte, certainement. Oui, mais attention, des textes qui n'ont pas été mis sur un support matériel avant longtemps.
Oui, c'est ça. Oui. Mais en même temps, il y a quand même... Oui. Vous parliez du 6e siècle après Jésus-Christ
pour la mise par écrit.
De la mise par écrit. Mais au fond, il y a eu tout d'un coup, étrangement à cette époque, des tas de mises par écrit, par exemple la Bible.
Mais effectivement, il y a quelque chose qui est peut-être tout simplement la prise de conscience des avantages de l'écriture.
Donc elle est tardive, cette
prise de conscience. Ça suffirait, hein. Mais oui, bien sûr. Oui. Quand la tradition orale fonctionne bien, et elle fonctionnait bien...
Il n'y avait pas de raison.
Pas de raison.
Alors, bon, les textes, justement, ont circulé enfin, dans tout cet Orient extraordinaire, précisément avec des croisements, les gens se rencontraient, ils s'arrêtaient, ils se racontaient leurs mythes, leurs légendes, leurs histoires, etc. C'est quand même, au fond, toujours des rencontres. Donc, si les gens se rencontraient, se parlaient, etc., forcément, ils s'influençaient les uns les autres.
Mais il y a un très beau problème, c'est le problème des Achéménides. Ce sont des Iraniens. Il est très probable qu'ils pratiquaient cette liturgie. Et c'est une liturgie extrêmement traditionnelle, où on trouve des choses totalement équivalentes aux Védas indiens. Mais à l'époque des Achéménides, les Védas, ils sont au moins 4 siècles plus anciens. Donc les choses ont persisté. Mais ces gens, ces Perses Achéménides, ces Iraniens de l'extrême ouest, ils sont au contact des grandes civilisations du Proche-Orient. C'est pas rien. Il y a les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Élamites que nous connaissons mieux maintenant. Il y a les Hébreux.
Il y a tout le monde.
Il y a tout le monde. C'est les civilisations. Il y a les Grecs aussi.
Bien sûr.
Hein, c'est tout un monde. Et alors, dans leurs manifestations, je vais dire, leurs écritures, les inscriptions des rois, leurs documents de comptabilité que nous avons, nous voyons que leur culture, elle n'est pas affirmée avec agressivité au premier plan. Hein. Mais elle est là, n'est-ce pas ? Parfois, quelque chose perce. Le roi Darius, il règne de 521 avant notre ère à 486. Et dans une inscription à Suez, il dit simplement, en parlant de Hawa Mazda, sa divinité, en 4 mots, « Je suis à Hawa Mazda. Hawa Mazda et Hawa Mazda est à moi. » Donc une sorte d'appartenance réciproque du dieu et du roi. 4 mots. De moi à Hawa Mazda, moi de Hawa Mazda, parce que ça suffit, n'est-ce pas, une phrase nominale. Mais dans l'Avesta, on a la même chose. En 4 mots aussi, ses créations sont à lui, il est à ses créations. L'Avesta. Le Rig Veda indien, où le chantre dit du dieu Indra, tu es à nous, je suis à toi. Voilà un trait de rhétorique indo-iranienne qui, depuis le monde indien, se retrouve dans le monde achéménide. Et pourtant, les Achéménites adoptent des tas de coutumes, de représentations graphiques, de représentations iconographiques, qui sont celles du Proche-Orient que nous connaissons, mésopotamien et autres. C'est très curieux comme situation.
Oui, c'est étrange.
C'est étrange c'est des temps qui nous échappent. Et comment vivait-on les contacts culturels ? Qui le sait ? Mais ça se passait très probablement paisiblement. C'était très paisible. les rois achéménides subsidiaient les cultes des Élamites. Vous avez besoin de ceci pour vos sacrifices, voilà, les livraisons royales, autant de kilos de blé, autant de fruits, quelques chèvres.
Est-ce que ça voulait dire que le ciel était ouvert, enfin tous les dieux pouvaient s'installer?
Il ne faut pas faire, je crois, d'anachronisme. Il ne faut pas parler de tolérance, ce serait ridicule, c'est pas
oui,
ça,
non,
bien
mais
sûr.
Ça pouvait cohabiter, peut-être.
Il n'y a pas de sentiment d'incompatibilité.
C'est ça.
Pas de sentiment d'incompatibilité. Je crois que c'est. Il faut voir les choses très simplement, sans faire de théorie.
Vous avez écrit il y a quelques années un très beau livre sur Zoroastre. Est-ce que vous écririez le même livre aujourd'hui ?
Oui, je voudrais situer aussi un peu l'histoire de ce livre parce que ça permet de comprendre son existence finalement. En réalité, c'était un très vieux projet que j'avais abandonné et je l'ai repris lorsque, dans le courant des années 90, il y a eu une très forte réaction vis-à-vis de mes thèses, mais aussi d'autres, vis-à-vis de la part de savants plus âgés, Ilya Gershevitch en Angleterre et ou Gherardo Nuoli en Italie, avec le souhait de revenir à une position, une conception biographique et philosophique forte du zoroastrisme et de la personne de Zarathoustra. Bon, les deux me paraissaient exclus, surtout la date. Situé Zarathoustra, donc la composition des plus vieux textes, pour le dire à ma manière, au VIe siècle avant notre ère, c'est une aberration chronologique. J'ai repris ce vieux projet, non pas en polémique directe contre eux, mais dans le souci de démontrer, avant de faire autre chose, parce que j'avais déjà d'autres idées, elles positives en tête, que je devais montrer que la conception biographique et prophétique du zoroastrisme n'avait aucune légitimité critique du point de vue historique à l'intérieur des textes. Cela, j'en suis de plus en plus convaincu. J'espère d'ailleurs maintenant avoir montré les choses de manière positive et non plus négative, non pas de manière critique, mais de remplacer ce système par un autre. Je ferai quelques petites modifications à mon livre, mais ce sont des modifications purement factuelles sur des détails, parce qu'on sait des choses de plus, on a corrigé des détails, bon. Mais ce serait un toilettage très limité. Je maintiens entièrement cette position, je dirais avec beaucoup plus d'assurance encore qu'à l'époque, parce que ce que nous percevons maintenant est non pas véritablement la confirmation du livre, mais en tout cas l'infirmation de ce qu'il attaque.
Vous parliez tout à fait au début de cette conversation, Jean Quélaz, des grandes familles zoroastriennes qui avaient donc, avec beaucoup de générosité au fond, accepté d'ouvrir leurs archives et de les prêter à Geltner. Pour traduction, que savaient et que savent aujourd'hui les zoroastriens qui pratiquent le zoroastrisme? Que savent-ils exactement de l'Avesta? Quelles sont leurs positions? Y a-t-il des savants qui travaillent sur leurs propres textes? Est-ce
oui,
que vous pouvez nous dire
beaucoup.
Un peu
il y en a.
Où on en
et
est
je vais dire que toutes les variétés possibles sont représentées, bien sûr. Mais il y a des savants zoroastriens qui sont d'excellents philologues à la méthode européenne. Comment ils peuvent concilier cela avec l'esprit critique et la critique historique, c'est leur affaire.
Bien sûr.
Bien sûr, oui. Et puis, je citerai quelqu'un de plus jeune, qui est l'élève d'un de mes collègues américains. Il est bien sûr d'origine zoroastrienne, mais je vais dire, ce n'est pas un... n'est certainement pas intégriste.
Est-ce qu'il peut y avoir intégrisme zoroastrien?
Il y a des petits incidents qui se produisent. Non, il n'y a pas de violence, soyons clairs. Mais bon, il n'y a pas très longtemps, Alberto Cantera, dont nous avons cité le nom dans une conférence à Londres, il y avait des zoroastriens présents. Ils sont d'autant plus présents à Londres que la chaire d'études iranienne de Londres est sponsorisée par leur communauté. L'un s'est levé en disant « si ça c'est le zoroastrisme, je ne suis pas zoroastrien » et est sorti. Des incidents de ce type, il y en a. Il y en a. Ils sont rares, mais il y en a tout de même.
Mais on a l'impression, quand on écoute vos cours, Jean Kellens, on a vraiment l'impression que la religion, la pratique de la religion zoroastrienne est une liturgie permanente, enfin un sacrifice permanent, et qu'on est pris dans du soir au matin et du matin au soir à l'intérieur d'une liturgie, d'un rituel, etc.
Oui,
est-ce que c'est ça ?
C'est vrai, et en même temps, il faut faire une nuance. Je pense que le sacrifice est permanent. Il n'y a jamais de laps de temps où il n'y a pas de sacrifice en cours. Oui, mais attention, nous ne sommes pas dans un milieu judéo-christiano-musulman. On n'assiste pas aux offices. Les prêtres travaillent à huis clos. Alors, bon, c'est leur métier. Qu'une communauté assiste à l'office, ça n'a pas de sens. Il suffit que les professionnels s'occupent des choses.
Donc il y a au fond, en permanence...
Oui, il y a en permanence des actes sacrificiels qui sont posés, mais ils ne s'intègrent pas nécessairement dans la vie quotidienne des gens.
Donc du coup, on peut être zoroastrien et ne rien pratiquer du tout.
Sauf que nos jours, bien entendu, l'influence de la religion hindoue d'une part et des religions monothéistes de l'Occident, judaïsme, christianisme, islam a joué. On fait cela autrement, bien sûr. C'est très sensible dans toutes les communautés. L'islam a exercé une influence sur le comportement religieux des zoroastriens d'Iran et l'hindouisme sur celui des comportements religieux des zoroastriens d'Inde.
Comment est-ce qu'un jeune homme ou une jeune fille qui voudrait entreprendre des études sur l'Avesta aujourd'hui devrait procéder ?
Étudier le sanskrit.
D'abord le sanskrit.
Je ne crois pas... Bon, je sais bien, dans les universités américaines, certaines choses... sont plus, je vais dire, empiriques. Mais bon, je crois que c'est un texte lacunaire. Enfin bon, vous savez, il y a trois volumes comme ça, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un matériel linguistique qui peut avoir, je vais dire, une sorte d'épistémologie autonome. Il faut nécessairement le rapporter à quelque chose. Alors l'idéal est d'acquérir une bonne maîtrise du sanskrit, de pouvoir utiliser les grands livres de référence, grammaire, dictionnaire, sanskrit, afin de pouvoir l'appliquer. Mon vieux maître Hoffman disait toujours « Le meilleur dictionnaire avestique, c'est le dictionnaire de Rig Veda de Grassmann. C'est vrai, d'une certaine façon. Je crois qu'il faut... ce n'est pas une étude dans laquelle, je crois, il est favorable de se lancer spécifiquement d'emblée. C'est l'étude du sanskrit qui doit être préalable.
Où en est aujourd'hui la recherche, Jean Kellens ?
La mobilité même de nos conceptions a été telle les dernières années que les perspectives s'ouvrent devant nous. Vous savez, il y a des époques, j'ai eu la chance de vivre cette époque où les travaux de Hoffman nous permettaient, nous, jeunes débutants, en appliquant ces méthodes, de trouver un problème, de le résoudre à notre manière, correctement ou pas, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il suffisait, comme je dis parfois, de se baisser pour ramasser quelque chose, pour en faire un article scientifique, n'est-ce pas ? Et puis, dans la perspective de Hoffman, la source est tarie un jour, parce que le nombre de problèmes que l'on peut résoudre très vite et de manière visible, un jour ou l'autre, ça devient plus compliqué. Et je crois que c'était une chance pour nous. Et c'est vrai que j'ai vu les étudiants devenir, il leur est plus difficile de publier. Trouver un bon sujet d'article, ça se trouve plus si facilement que c'était le cas pour nous, ben, c'était bon. Alors aujourd'hui, bon, quelles sont les perspectives? Il faut attendre un peu que les grandes lignes de nos interprétations du texte se dégagent. Et alors je crois que cette nouvelle conception de l'Avesta, qui en fait un ensemble cohérent, concerté, avec un assemblage possible de divers types de liturgie, ça va ouvrir des perspectives à l'analyse. Et ça a des influences sur l'analyse aussi du système religieux, bien sûr.
Pouvez-vous nous dire, Jean Kellens, ce qu'il en est du mazdéisme et des zoroastriens aujourd'hui?
Bah, écoutez, un simple chiffre que je peux vous donner. Lorsque, à l'époque, je vais dire sassanite, mais déjà à l'époque de composition des textes avestiques, donc époque achéménide, un peu avant, 8 prêtres officient. Le collège sacerdotal qui officie, c'est 8 prêtres.
Oui.
Aujourd'hui, 2. Ben oui, on ne peut pas payer autant de professionnels. Bon, les communautés non plus le même. Mais ça implique des changements, nécessairement. Hein. Dès lors, la mobilité devient moins grande. On doit sélectionner le type de possibilités rituelles. On ne peut plus les avoir à foison. S'il y a 8 prêtres, bah c'est que les collèges sont tout de même largement interchangeables, que chacun peut... Bon, les équipes sont renouvelables. Enfin bon, ça permet beaucoup plus de possibilités. Effectivement, nous soupçonnons aujourd'hui, c'est d'ailleurs la nature du travail actuel, c'est d'essayer de voir quelles étaient toutes les combinaisons possibles. Alors qu'aujourd'hui, en définitive, il n'y en a plus que 2. Comme il n'y a plus que 2 prêtres. Et encore, lorsque nous avons la variante la plus longue textuellement, depuis déjà maintenant plusieurs siècles, c'est attesté déjà il y a très longtemps, il y a permission de se référer à un texte écrit, parce que la cérémonie est plus longue, le récitatif aussi, par conséquent, on ne peut plus l'apprendre véritablement
par cœur,
oui.
À combien de membres évaluez-vous aujourd'hui la communauté zoroastrienne dans le monde?
Il y a, en Inde, ça fait environ 120 000 personnes. Environ 30 000 en Iran.
Ah, 30 000 en Iran, c'est beaucoup.
En Iran, oui, mais circonscrites dans certains endroits, hein, les villes de Yazd et Kirman, par exemple.
Il y a une vraie liberté du culte.
Ils sont plutôt favorisés, ce qui a été une surprise, une heureuse surprise. Il y a un véritable... Ils sont un peu chouchoutés, oui, par le riche. C'est assez... Peut-être au nom de l'histoire nationale. Hein.
Vous avez l'air très optimiste, Jean Kellens, sur la discipline, sur ses avancées, sur les gens qu'elle attire.
Mmh. Oui, je pense, oui. Il y a beaucoup de très bons jeunes savants, oui.
C'est bien d'entendre ça.
Oui, je peux le...
Est-ce que je peux vous demander de nous lire un peu longuement, peut-être un passage de l'Avesta, qu'on entende justement de la mystique.
Oui, mais je ne vais pas le réciter comme eux. Hein.
Non, vous allez nous lire.
Je vais le réciter à la française, vous savez, c'est pas... Qu'est-ce que je fais? Je vais vous lire la Vunavairya.
Ah oui,
puisque
donc,
c'est la première de toutes les strophes de l'Avesta ancien, et c'est celle qui est le pivot du rituel. Car la particularité de l'Avesta par rapport aux religions de l'Inde, du rite avestique par rapport aux religions de l'Inde, et peut-être probablement à beaucoup de variantes de la religion iranienne dont nous avons perdu la trace, c'est de fonder un rite ou fonder sur cette strophe-là. Reconnaître que tout le rite possible est inclus dans la formule de la Vunavairya, qui en réalité ouvre l'Avesta ancien, mais ne veut rien dire d'autre. C'est finalement très plat et pas grand-chose si on ne sublime pas cela un peu par l'exégèse. C'est-à-dire, voilà, nous faisons le choix d'un temps rituel précis. C'est-à-dire, nous choisissons de commencer le sacrifice au matin, à midi ou au soir. Hein. C'est rien d'autre, c'est dire, voilà, nous choisissons ce qu'ils appellent un ratou, c'est-à-dire un temps rituel, et tout ce qui va avec, ce que ça implique. Et c'est ça que nous dédions à la divinité, à Ahura Mazda. Mais l'exégèse en a fait quelque chose d'autre. C'est la formule qu'Ahura Mazda aurait récité lui-même en procédant dans le néant encore où il était le seul à un sacrifice qui lui a permis de créer le monde. Alors, bien entendu, si un dieu sacrifie pour créer le monde, il faut qu'il puisse sacrifier. Qu'est-ce que ça implique, qu'il puisse sacrifier? Ben, il doit d'abord faire une vache.
Mais oui, évidemment.
Et bien sûr. Mais oui. C'est pour ça que la première chose créée, c'est une vache. Pas une vache créée, comme disent les textes, seule. Parce qu'il fallait la sacrifier pour créer le monde. Donc la création de la vache est...
Et primordial.
Primordial. C'est le préliminaire absolu.
Ah oui, oui, bien sûr, c'est l'objet du sacrifice.
Bah, oui. Mais ça, c'est l'exégèse. Ça n'est absolument pas dans le texte de la Huna Vairya. Hein. Le texte, c'est simplement dire, nous choisissons tel temps, le pouvoir que cela va nous donner, et nous dédions cela à Uramazav. Alors voilà le texte. Yata ahu vairyo, ata ratush achachit hachaa, Vankosh Dazda Mananko, Shiautenanam Ankosh Mazdai, Kshatram Cha Ahurai A Yim Drigubio Dadat Vastarum. Voilà. C'est la strophe de base du rituel. Mais récité, comme nous récitons le latin, hein, vous savez qu'il y a une récitation italienne, allemande, on ne sait pas.
Merci beaucoup, professeur Jean Quélaz. C'était Éloge du savoir, le Collège de France. Avec ce soir Jean Quélaz, titulaire de la chaire des langues et religions indo-iraniennes. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Demain, vous entendrez une série d'émissions consacrées pendant 24 heures à la francophonie. Nous vous donnons donc rendez-vous après-demain avec une conférence de Frédéric Lechterflack. Nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.
Thank you.